Cascodeur Podcast, épisode 204. Silicon Valley, ton univers impitoyable. Enregistré le 8 février 2019.
Bonjour et bienvenue sur les Cascodeurs, épisode 204. Alors, moi, je crois que j'avais lâché à l'épisode 122.
Un truc
non,
comme ça.
Non, c'est pas
ouais.
Vrai, mais ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps, donc je suis super content d'être de retour autour du micro avec ma copine Audrey et mon copain Arnaud.
Coucou.
Coucou les gens. Alors, épisode spécial news, hein. Donc, on va commencer par les langages. Et je vous propose de commencer par Java, bien sûr. Donc, on a un JDK 11.02. Et surtout, on a un JDK 12 qui est en RC. Donc, voilà, les deux news sur la plateforme Java. Arnaud, Audrey, est-ce que vous avez des choses à dire sur les nouveautés?
Je vais avoir plein de choses à dire plus loin, alors je vais m'abstenir là.
Tu t'abstiens, oui.
Non, bah Joker.
Joker. Ouais, on en reparlera. Mais effectivement, oui. Donc la version 11, bon, ce sont juste des maintenances, donc c'est des bugs fixes, etc. La version 12, oui, qui est donc là déjà en release candidate. C'est
Rémi Forax.
Voilà, Rémi qui nous a passé l'info sur la mailing list et notamment donc sur la Java 12, il y a la nouvelle syntaxe de Switch. Voilà, donc ça commence, c'est déjà en RC, donc ça va, puisque c'est prévu pour, alors c'est quand, à chaque fois je me trompe, mars, c'est ça, c'est en mars et en
mars, hein, mars.
Voilà, donc ça arrive. Voilà. Donc et c'est déjà dispo dans IntelliJ, donc pour ceux qui utilisent IntelliJ, c'est déjà compatible Java 12 pour ceux qui veulent tester la version RC.
Et on est bien d'accord, tous nos clients sont en Java 8.
Ouais, voire 7.
Dans le meilleur des cas.
6.
Dans le meilleur des cas.
Je pense pas que tous les clients d'Arnaud soient en Java 8. Il aimerait bien.
Non, oui, dans le monde de la CI/CD, il faut bien sûr être compatible. Un certain temps, il y a toujours des clients qui font des projets qui sont compatibles Java 5, Java 6, qui continuent de les builder, de les maintenir. Voilà. Mais bon, oui, bon ça avance quand même.
C'est un petit peu comme quand tu fais du web et qu'il faut que tu maintiennes de l'IE6, hein. C'est pénible, mais c'est la dure réalité.
C'est ça.
Non, c'est pas vrai. IE6.
Ah, il y a des gens qui en font encore. Il y a des gens qui aiment se faire mal, c'est comme ça.
Bon, alors après, vu qu'on est dans les RC, donc où on parle de trucs qui sont pas encore sortis, il y a GraalVM quand même. GraalVM, où on en parle depuis un bail, c'est toujours en RC. Donc on est en 1.0 RC11 qui vient de sortir. Est-ce que vous avez suivi, vous, les avancées de GraalVM? Je vous avouerai que j'ai pas tout suivi, moi.
Alors, en fait, là, sur cette... Sur cette version-là, bon, il y a des mises à jour, par exemple, sur le support de R, ils sont passés à la 3.5.1. Ce qui est peut-être le plus important dans cette version-là, c'est que la génération d'images natives a été revue. En fait, il y a une implémentation qui avait été faite en RC10 qui peut causer des problèmes. Donc, voilà, ils ont corrigé ça et je crois qu'ils ont complètement réécrit le truc, en fait. Il y a aussi au niveau du ce qu'ils appellent le Graal Visual VM, tu peux maintenant faire du monitoring du CPU des process dans les images natives. Voilà. Il y a le support donc officiellement support de JavaScript à partir de la version ECMAScript 5, donc déjà une version assez ancienne, hein, et au-delà. Donc c'est voilà, simplement les plus vieilles versions de JavaScript ne sont pas supportées, mais à partir de la 5 c'est bon. Et voilà, globalement, enfin il y a d'autres choses, mais on va dire dans ce qui est susceptible d'intéresser nos auditeurs, c'est le principal. Et donc je vous ai mis un petit article qui est sur la création d'images natives, justement, avec Groovy et Grape, qui est le gestionnaire de dépendance qui est embarqué dans Groovy. Petit article sympa où je me suis dit, il y a sûrement des gens qui veulent jouer avec, donc ça peut peut-être les guider.
Jouer, bosser, non, peut-être, on fait pas que jouer.
Bah,
quand même.
Bosser, moi je veux bien, je vais me ramener au bureau avec ça, je suis pas sûr qu'on va me dire, bah vas-y cocotte, fais ton
oui,
plaisir.
Oui, c'est sûr.
C'est pour ça que je pense que dans un premier temps déjà... laisse le truc en side project, que c'est cool.
Mais... Et avant de le mettre en prod,
bah,
c'est
ouais, ça. Bah ouais, ouais. Ouais, tu fais un POC, après tu peux le mettre en prod, mais.
C'est le principe. Non, mais il est sympa le petit tuto que t'as, le petit tuto que t'as partagé. Je le regardais l'autre jour et au final ils arrivent à faire donc la VM l'image. Elle fait 50 mégas, c'est pas énorme, voilà. Enfin 50 mégas pour avoir tout l'environnement de la JVM avec Groovy, avec le jar, etc. Enfin je sais plus, il disait, je crois que le total Groovy plus les jars qu'il utilisait, ça devait être 5 mégas. C'est pas mal.
Bon, puis bah il y a Go aussi. Hein, Go qui vient de sortir une 1.11.5. Je suis sûr que il y a des trucs hyper importants. Et aussi une maintenance pour Go 1.10 aussi.
Voilà, en fait les deux, parce qu'il y a la 1.11.5 et la 1.10.8, les deux sont des releases de sécurité et il est fortement recommandé d'upgrader.
Comme d'hab.
Donc vous pouvez aller voir la liste des points qui sont fixés et il disait que si vous êtes pas sûr de la version à prendre, il vaut mieux prendre la 1.11.5 par défaut. Ça permet notamment de corriger une vulnérabilité DOS qui permettait à l'attaquant de balancer des inputs qui vont faire exploser la console CPU. Donc c'est assez intéressant à prendre en compte.
C'est assez intéressant.
Et sachant que tout ce qui est buildé avec Go, donc faut aussi le mettre à jour, parce que je crois que j'avais vu passer l'info pour Go, mais via Kubernetes, etc. Puisque Kubernetes, eux, ils ont appliqué le fixe. Alors je sais plus sur quelle version. Peut-être là, je sais plus. Je vais dire des bêtises, donc je vais pas le dire. Mais donc il faut aussi mettre à jour tous ceux qui sont basés sur Go.
Bon, et pour ceux qui n'y connaissent rien à Go, un petit peu de pub. On a nos amis de Sphere qui ont sorti un livre blanc. Alors, je l'ai pas lu, hein, mais c'est toujours intéressant d'avoir des petits livres blancs comme ça, en plus en français.
Je l'ai pas lu non plus, et c'est pas pour faire de la pub, mais le fait est que Sphere donne des ateliers, ils font des ateliers gratuits régulièrement, et ils en font en Go depuis longtemps.
Les Sphere School, et voilà, ouais, c'est super.
Et ils ont vraiment des gens qui travaillent en Go, quoi. J'ai des anciens collègues qui en font pas mal, donc voilà. Donc je pense que vous pouvez y aller.
Donc merci nos petits copains de Sphere. Donc le livre blanc est gratos, hein, vous laissez votre nom, votre prénom, votre mail, et il vous envoie un lien avec le livre blanc en français, ce qui peut être pas mal pour certaines personnes. Bon, bah les langages c'est terminé, hein, ok. Je vous propose de passer au framework. Alors là, il y a beaucoup de Spring. Hein.
On est très Spring aujourd'hui, j'avoue.
Spring. Ouais, on est très Spring aujourd'hui. Hein. Mais il y a des belles petites choses quand même. Hein. Bon, alors bien sûr, il y a la série de on met à jour. Donc il y a Spring 5.1.4. Vous savez, parce qu'il y a 5.0 et la 5.1. Donc la 5.1 a été mise à jour. La 5.0 a été mise à jour puisqu'on est à la 5.0.12 et ils maintiennent encore la 4 puisqu'il y a la 4.3.22. Donc tout ça vient de sortir.
Voilà, alors la 5.1.4, c'est plus de l'affinage en fait, elle va corriger des régressions, des trous dans la raquette qui ont été identifiés sur la 5.1 qui était en général availability. La 5.0.2, c'est la dernière release prévue sur la 5.0 parce que la 5.0 elle entre en fin de vie le mois prochain. Et la 4.3, elle est rentrée en phase de support étendu. Hein, donc il n'y aura pas de maintenance régulière prévue au-delà de cette version. Ça sera seulement des fixes sur des problèmes graves. Et elle sera en fin de vie complètement fin mi-2020. Voilà.
On a encore du temps, ça va.
On a encore un peu de marche.
On va migrer.
On sera à Java 13.
Oui, ça va. Les projets en Java 5, de toute façon, ils l'acceptent plus. Donc c'est pas... Ils ont encore la marge.
Alors pour continuer sur Spring, on a notre ami Dev Sayer. Je sais pas si ça se dit Sayer, enfin bon bref. S-Y-E-R. Qui écrit pas mal de blogs techniques, et là il en a écrit deux d'un coup, plutôt pas mal. How fast is Spring? Donc il vous donne plein de techniques, Spring Boot, Spring, le Core, Spring 5.1 avec Netty, sans Netty, enfin bref. Et puis il a aussi créé un autre blog qui est un peu lié, c'est le Manual Bin Definition in Spring Boot. Donc plutôt qu'au lieu de faire enable autoconfig et laisser Spring Boot tout faire, il vous donne des petites astuces pour définir vos bins à la mano. Et c'est plutôt pas mal. Il vous donne plein de petites astuces sur, le démarrage de Spring, il est lent parce que il se passe ça. Vous pouvez enlever ça, vous pouvez enlever ceci sauf si vous en voulez pas, utilisez pas Vactuator, etc.
Si vous en avez
donc,
pas l'usage.
Le blog est plutôt pas mal. Si vous
parce
en avez
que l'Actuator,
pas l'usage,
c'est quand même utile. Hein. C'est ce qui permet de faire du check notamment sur le
bien
tu peux
sûr.
Faire un appel sur /else et voir dans quel état est ton appli. Mais effectivement, si vous ne vous en servez pas, il est mieux de le désactiver parce que ça fait partie des choses qui vont ralentir le démarrage de votre application, ouais.
Et puis il y a un truc aussi qui est pas mal, ça existe depuis un petit bout de temps, mais là il en reparle, c'est le Lazy Bean processeur, donc au démarrage de Spring, ça. En fait, il explique comment instancier les beans de manière lazy. Pour que le démarrage soit plus rapide, et bien sûr à la fin vous avez le petit benchmark qui vous dit que vous avez gagné quelques secondes.
Et donc dans les recommandations aussi, il y a le fait de passer par la déclaration fonctionnelle des beans, la nouvelle feature qui a été introduite en 5.0 et qui permet apparemment de vraiment améliorer les temps de démarrage, etc. Bon voilà. Et après, comme on disait tout à l'heure, si vous ne pouvez pas faire ça, ben dans la mesure du possible, c'est mieux de prendre les sets de config auto ou de refaire votre déclaration à la Mimine plutôt que de prendre le enable auto configuration, car lui il va loader un paquet de trucs, y compris des choses dont vous vous servez pas. Donc voilà, je les ai vraiment trouvés hyper intéressants ces deux articles, je les ai trouvés bien fichus. C'est bien expliqué, bien détaillé, ça vous donne plein de pistes pour le faire, c'est assez chouette.
Et on en reparlera tout à l'heure, hein, mais puisque on va parler aussi de la dernière version de Shipster, mais justement Dave a pas mal mis la main à la patte sur la dernière version de Shipster pour avoir justement du lazy bean et pour que le démarrage se fasse un peu plus vite. Donc voilà, merci Dave. Voilà. Encore une petite news là sur Spring qui m'a bien plu. Vous savez que Netflix, depuis un bail, développe toute une panoplie de projets open source liés aux microservices, hein, comme Ribbon, Eureka, Istrix. Et très tôt aussi, Spring Boot a intégré tout ça. Et donc en fait, Netflix se retrouve aujourd'hui à continuer à maintenir des Ribbon, des Istrix vachement moins qu'avant, alors que Spring Boot faisait déjà des tas de trucs intégrés, Netflix a fait des trucs par eux-mêmes, etc. Et là, Netflix, sur un blog de mi-décembre, donc il y a à peine un mois et demi, dit que ils vont laisser tomber le développement de certaines stacks et ils vont prendre les stacks de Spring Boot qui se sont inspirés de leur stack à eux, hein. Et ils disent même que ils ont pas mal bossé avec l'équipe Spring Boot qui contribue aussi. Donc voilà, ils ont en fait un petit schéma qui vous dit au lieu de Ribbon, on va plutôt utiliser Spring Cloud Load Balancer. Au lieu de Eureka, on va plutôt utiliser Spring Cloud d'Eureka. Donc là, on imagine bien qu'il y a eu un bon partenariat entre les deux. Etc. Donc Istrix, c'est vrai que c'était plus maintenu. Là, ils en parlent pas. Ils parlent du Resilience 4G et de l'Adaptive Concurrency Limiter. Donc voilà, je sais pas comment vous l'avez perçu vous, mais
alors moi j'ai vraiment beaucoup aimé cet article. En fait, je trouve la démarche très sympa parce qu'ils expliquent bien que c'est vrai que eux, quand ils ont commencé en 2000, mais ils prenaient comme point de départ 2010.
En 2007 là.
Nous voilà, on avait
parle de 2007.
Voilà, on avait des critères qui étaient fiabilité, scalabilité, efficacité, sécurité, tout ça. Et à l'époque, il n'y avait pas de solution vraiment probante. On a été obligé de faire nos propres outils. Et puis, en parallèle, on a vu Spring évoluer et non seulement atteindre ces critères, mais même les surpasser, enfin amener d'autres choses en complément, au-delà des outils que eux ont été obligés de redévelopper, des choses comme Spring Data, comme Spring Cloud AWS, Spring Security, etc., où ils ont vraiment fait un très très bon boulot. Et ce qui est chouette, c'est que la position de Netflix, c'est de dire, bah, quand il y a une direction commune, comme c'est le cas avec Spring Cloud Load Balancer, Netflix va plutôt tirer profit de Spring, et donc je pense que ça va notamment passer par des contributions pour se servir des projets et les faire avancer. Et puis lorsqu'ils seront sur de l'innovation, donc ce qui est le cas du Netflix Adaptive Concurrency Limiters, et ben dans ce cas-là, il y aura quand même un retour. En gros, ils vont un peu tirer le truc, mais ils vont l'amener à la communauté. Donc il y a une vraie un vrai engagement. Qui est chouette. Enfin, c'est, moi je trouve ça excellent d'une boîte qui a cette complexité là, ce niveau technique là, de prendre autant de positions sur de vraies positions open source. C'est super chouette.
Bon, et puis il faut être aussi honnête, hein, pour ceux qui ont vraiment utilisé leur stack sans Spring Boot, donc vraiment on dépend des jars, on met du code, on tire machin bidule. Si vous faites votre framework microservice avec la stat Netflix, on se rend compte quand même que la doc, elle est pas top, que les samples sont pas géniales, que il y a pas beaucoup d'aide en fait. Et l'article ils en parlent un petit peu, hein, ils disent bah grâce à Spring Source, grâce à Spring Boot, et ben on aura de la documentation, de la formation, etc., etc. Donc c'est vrai que ben, Netflix c'est quand même pas une boîte de soft, hein. Eux, leur métier c'est streamer des films, et la doc, la formation autour de la stack Netflix est pas super. Donc là c'est aussi un moyen de dire, et ben voilà, on intègre l'équipe Spring qui eux sont très très forts en documentation.
Alors,
en maintenance et en formation.
Une chose amusante par rapport à ce que tu viens de dire et qui est pas liée à l'article, jusqu'à il y a très peu de temps, Netflix était, alors je vais pas connaître le terme exact, mais ça serait un petit peu l'équivalent de, c'est-à-dire que nous, par exemple, la plupart des gens qui nous écoutent, comme moi, on est sous la convention Syntec. On est reconnu comme, voilà, faisant partie de la partie informatique, etc., de la société. Et Netflix, jusqu'à très récemment, était sous l'équivalent, cet équivalent US, et vient de basculer du côté média. Il y a un changement de position qui a été fait.
D'accord.
Ils ont rejoint le conglomérat médias, télé, etc., très récemment. C'est intéressant, parce que c'est un vrai changement de positionnement aussi, hein, donc voilà.
Ouais, moi je sais plus si on avait parlé sur les casse-codeurs ou pas, mais j'avais vu passer il y a quelques mois, Netflix, c'est 14% de la bande passante du web à travers le monde. Et ils ont des pics. Selon les pays et selon les journées, enfin vous imaginez bien le match de foot ou le Super Bowl, ils peuvent encrasser jusqu'à
40%. Et ben justement, tu sais que le Super Bowl là, c'était la semaine dernière, je crois, et ça a fait un gros creux dans leurs audiences.
Ah d'accord.
Ils ont vu un pic d'inactivité au moment du Super Bowl.
Ouais, donc c'est clairement une boîte de médias et pas une boîte de soft. Ouais. Donc pour nous, je pense que ça sera plus simple et plus sain d'avoir Spring comme interface plutôt que la doc Netflix sur leur stack OSS. Bon, alors middleware, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Alors, on en parlait tout à l'heure, enfin, j'en parlais vite fait. Il y a une nouvelle version de Jipster. Ça sera en fait la dernière version de Jipster 5. Donc là, on est en 5.8.0, puisque maintenant, Jipster, l'équipe se concentre sur la version 6. Donc, il y a quelques nouveautés. Justement, là, ils sont passés à Micrometer. Pour la partie Angular, alors ça, c'est celle que je connais le mieux. Je vous avouerai que j'ai pas trop suivi les autres. Maintenant ils ont mis en place du lazy loading de modules, donc c'est plutôt pas mal. Un peu de voilà des nouvelles choses sur la partie JPA qui est toujours aussi bon à prendre parce que c'est quand quand même le nerf de la guerre. Et puis, quelques modifs liés à l'authentification. Voilà. Bon, je sais pas si vous avez suivi ou pas.
Moi j'ai suivi un petit peu de loin, puisque Jipster fait pas partie des outils que j'utilise
idem
au quotidien, mais...
Idem. Non, je me suis limité
à
Spring Boot.
Et puis une mise à jour de Spring Boot aussi, ouais. Donc voilà, ça c'était pour la version de Java Hipster. Et si on reste aussi dans la partie microservice, eh ben on a le petit Micronaut. Je dis petit parce qu'il est pas très très vieux, hein, qui vient de passer en 1.04. Alors là, pour le coup, j'ai pas trop suivi, j'ai pas vu les nouveautés. Je sais pas si vous avez des choses à dire.
Oui, c'est assez simple. C'est que c'est une release qui va amener plus de modularité, dans le sens où le core est maintenant beaucoup plus petit. Et tout ce qui est pas directement Micronaut va maintenant être en subproject, ce qui va permettre à ces subproject d'évoluer indépendamment et d'itérer plus vite dessus. Donc par exemple, la partie test, c'est Micronaut test. Donc c'est la partie qui supporte JUnit 5, Spock, etc. MongoDB, c'est Micronaut MongoDB, Redis aussi, le gRPC, enfin le support gRPC aussi, etc. Et donc c'est une release un petit peu intermédiaire en fait, hein. La prochaine release majeure c'est la 1.1, elle devrait arriver rapidement, mais voilà, je pense que effectivement mettre en place cette architecture là maintenant va leur permettre d'accélérer derrière de manière plus facile pour eux en fait.
Bon, donc bientôt ça s'appellera plus Micronaut mais Piconaut, alors c'est de plus en plus petit.
Va savoir. Où est la limite,
qu'est-ce qu'il y a sous le pico, bon bref.
Nano, je sais pas.
Allez, on laisse la partie middleware et on va aller un petit peu sur la partie infra avant d'aller sur le web. Bon, la partie infrastructure, de toute façon, début 2019, à part Kubernetes, vous voyez quoi, vous ?
Kubernetes ?
On est bien d'accord. Voilà. Alors, quand même, là, il y a un super article qui s'appelle The Future of Kubernetes is Virtual Machines. Donc en français, c'est l'avenir de Kubernetes, c'est les machines virtuelles et pas les containers. Et là, je vous avouerai que je commence à être un peu perdu.
Ouais, alors en fait, c'est...
On nous aurait menti.
C'est autour d'un problème qu'on connaît depuis longtemps. Hein. On peut en parler avec les gars de Clever, ils expliqueront ça 10 000 fois mieux que nous. C'est le fait que finalement Docker c'est plutôt un wrapper autour des containers Linux, mais les containers c'est pas fait pour être isolé. Donc c'est construit sur un modèle de kernel partagé qui va utiliser certaines des fonctionnalités du kernel pour faire une isolation, mais qui est très très basique. Donc par exemple, avec Kubernetes, on va pouvoir définir des namespaces et des pod security policies, mais l'API en elle-même, l'API Kubernetes, elle n'a pas été conçue pour être multitenante, pas plus que le kubeproxy ou le kubelet, qui sont les outils que vous utilisez pour communiquer avec les pods, ne l'ont été conçus. Donc, ça fait que Kubernetes se retrouve dans un modèle qui est dit de « soft tenancy ». C'est pas une vraie... architecture multitenant. Et donc le problème, c'est que cette architecture soft tenancy va avoir tendance à se répliquer un petit peu partout. Et une plateforme qui est construite sur des containers, va répliquer ça à plusieurs niveaux. Ça fait que les providers cloud, ils sont dans une position qui est un peu pas bizarre, mais ce qui va souvent se passer, c'est que comme ils sont capables de fournir des Kubernetes managés de manière très très facile, le plus simple, quand tu veux avoir des tenants séparés, c'est d'avoir un cluster à chaque fois. Donc c'est pas génial. Et donc ça fait que concrètement tu vas finir par des équipes qui vont avoir un cluster par dev quasiment. Faut savoir qu'un cluster, au minimum, c'est un master et 3 workers. Ça fait quand même pas mal de machines qui tournent potentiellement pour pas grand-chose, ou en tout cas, ça fait beaucoup de machines qui tournent pour plus que ce qui est nécessaire.
Oui. Ouais.
Et donc voilà, la question au cœur de cet article, c'est de dire comment est-ce qu'on rend Kubernetes multitenant ? C'est un problème que la communauté connaît depuis longtemps. Ils ont ouvert un groupe de travail dessus. Il y a une proposition de Jesse Frazel qui est d'utiliser un outil du type Kata Containers qui va permettre de combiner le niveau d'isolation d'une VM en ayant les mêmes performances que des containers. Voilà. Donc en fait, on va prendre le container et puis on va le mettre dans une VM qui est fournie par l'infrastructure as a service qui est en dessous. Et ça permettrait notamment d'avoir les mêmes services qui tournent sur des nœuds. Donc tu vas avoir par exemple deux masters qui tournent sur le même nœud, qui vont être pour des tenantes différents, mais qui seront complètement isolés et pareil sur les pods. Et voilà, donc c'est l'article est un petit peu long à lire, mais il est très très intéressant. Je conseille d'aller jeter un œil dessus. Et voilà, c'est pour le moment, il n'y a pas de solution définie. Hein, c'est des pistes qui sont explorées, mais c'est intéressant de regarder ce que ça pourrait donner.
Bon, donc les containers sont pas vraiment morts encore.
Bah, ils sont mal isolés, hein, mais ça c'est pas une nouveauté. Hein, J'entends déjà un petit Quentin Adam trépigner d'ici. Bisous, Quentin.
J'avais raison, dit-il.
Voilà, donc je crois que c'est Laurent Dauguin qui avait fait un... Alors, je ne sais plus si c'était un blog post ou un talk sur le sujet, où il expliquait clairement pourquoi. Donc, allez voir si vous voulez mieux comprendre.
Bon. On quitte la partie donc infra tout en bas et on s'élève sur les frameworks JS tout en haut,
Dac. C'est ça.
Plein de mises à jour, Node qui est passé à la version 11.08,
non, 11.8.0.
Angular, 11.8.0. Je suis un peu dyslexique comme tout le monde. Angular 0.2.7, non 7.0.2, mais non 7.2.0, voyons. Bon voilà, tout est mis à jour, hein. Node, Angular, Vue, React. Alors moi je vous avouerai que j'utilise uniquement Angular avec du Node en dessous, donc j'ai pas trop suivi la partie Vue et React. Je sais pas si vous avez des choses à dire.
Ah bah j'ai plein de choses à dire, hein. Là ça va être... Là il va falloir qu'à un moment vous me disiez stop.
Ok, stop, alors...
On met la musique d'attente le temps que tu fasses ta minute web, c'est ça?
La minute qui dure une demi-heure, ouais, c'est ça.
À tout à l'heure, les gens, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Le monologue d'Audrey Neveu. Audrey, à toi.
Non, je vais essayer de faire court. Je vais pas y arriver, mais je vais essayer. La version 11.8.0 de Node, c'est pas une version révolutionnaire. Elle va amener quelques petites choses comme le support expérimental des checks d'intégrité de module, la possibilité, par exemple, d'avoir plus d'informations quand les événements ont un argument qui est pas un objet, d'avoir plus d'informations à ce niveau-là, etc. Angular, donc il y a la 7.2.0 qui est sortie au mois de janvier, qui amène pas beaucoup de nouvelles features parce que l'équipe est concentrée pour le moment sur le projet Ivy, qui est le nouveau compiler d'Angular qui doit être plus performant, plus léger, etc. Donc dans les changements notables, il y a le support de TypeScript en 3.2, qui est la dernière version. Il y a le support de Bazel. Alors Bazel, c'est un outil de build multilangage, pardon, et on peut maintenant directement générer un projet qui build avec Bazel. Il y a aussi le support complet de ce qu'on appelle l'history state du navigateur, c'est-à-dire qu'on va pouvoir passer une propriété state à ce qu'ils appellent les navigation extras, je connais pas la traduction. En fait, ce sont toutes les options qu'on peut passer à certaines méthodes du routeur, comme par exemple la méthode navigate by URL, et ça permet de passer ces paramètres directement aux composants qu'on souhaite appeler après, sur le prochain changement, sans les passer dans l'URL. Donc ça, c'est une fonctionnalité après un peu sympa. Il y a aussi eu des modifications sur ce qu'est la partie run guards and resolvers, c'est-à-dire qu'il y avait déjà eu des nouvelles possibilités d'introduites en 7.1, et là il y a encore plus de possibilités en 7.2. Pour vous le résumer rapidement, les run guards and resolvers, c'est une des options de configuration pour les routes. Et ça va permettre de dire quand est-ce que les guards et les resolvers sont appelés pour telle et telle route. Les guards, c'est ce qui permet de faire plusieurs actions avant de changer de route. Par exemple, ça va permettre de dire à l'utilisateur, est-ce que tu es sûr que tu veux changer de page? Parce que là, tu vas perdre tes modifications. Ça peut être une chose comme ça. Et les resolvers, eux, ils vont permettre de précharger les données nécessaires avant d'afficher un composant. Donc, c'est deux éléments vraiment intéressants du système de routing. Et donc, il est possible maintenant de, notamment, de les paramétrer faire du custom, quoi, si vous voulez, de dire, ben moi, je veux que ça change quand le paramètre de query, il est modifié, mais pas quand le paramètre de passe est modifié, ou des choses comme ça. Donc voilà pour Angular 7.2.0. Il y a eu deux versions de la CLI qui ont été réalisées au mois de janvier. La 7.2, elle apporte le support de TypeScript 3.2 également. Il y a des nouveaux flags, voilà, je ne vais pas tout détailler parce que ce sera un petit peu long, mais il y a également des flags qui sont dépréciés, donc si vous en utilisez pas mal, il faut peut-être avoir aller jeter un œil pour vérifier que ceux que vous utilisez sont toujours valides, puisqu'en fait, dans les nouveaux flags, il y en a qui vont venir les remplacer, comme par exemple sur la partie resources output pass. Ça permet de spécifier où on envoie les ressources. Il y a aussi un warning maintenant si vous overridez un flag, c'est-à-dire si vous allez utiliser un flag et puis lui donner des paramètres différents, vous allez le déclarer plusieurs fois, vous aurez un warning. Dans la 7.3 de la CLI, il y a un truc super sympa, c'est que avant, pour supporter de vieilles versions des navigateurs, pour supporter iOS 6, il fallait aller décommenter les lignes correspondantes dans le fichier polyfill TS. Et maintenant, la CLI va pouvoir le faire pour vous. Et c'est vraiment bien fait parce que, en fait, on pourrait craindre que ça rende les applications plus lourdes, mais ce que va faire la CLI, c'est qu'elle va rajouter le script dans l'index HTML et elle va mettre l'attribut noModule. Et ça, ça permet aux navigateurs récents de savoir qu'ils n'ont pas besoin de cette partie-là. Donc, en plus, ça permet de sauvegarder un peu d'espace dans l'application nouvellement générée. Et Antonio, tu voulais dire quelque chose ?
Ouais, je voulais juste dire que toutes ces infos là sur Angular, on les sort du blog de Ninja Squad, nos amis de Ninja Squad qui sont super, hein, ils font vraiment des super blogs. Ils ont écrit un livre qui est très très bien d'ailleurs, je vous le recommande, je l'ai pris, il est très très bien.
Le livre qui m'a sauvé la vie avec Angular parce que je m'en serais jamais sorti autrement.
Et c'est vrai qu'ils maintiennent leur blog à jour en français, en anglais, excusez-moi, sur toutes les nouveautés Angular, surtout Cédric. Bravo, moi c'est une belle ressource Angular, le blog des Ninja Squad.
En fait, moi c'est ma ressource de référence, que ça soit pour me tenir à jour des nouveautés ou que ça soit dans le dev de tous les jours. Enfin, c'est-à-dire que régulièrement, quand j'ai un doute, je reprends le livre, quoi. Et là justement. Dans la version 7.3 de la CLI, il y a une feature qui a été ajoutée par Cédric Exbraya. Donc la grande grande classe.
Bravo,
monsieur
Cédric.
Hein, quand même. Donc la config TLS lint par défaut maintenant, elle prend le set de règles qui a été défini par l'équipe TS lint. Donc c'est la très grande classe, hein, j'ai envie de vous dire.
Bravo, voilà. Cédric, bravo.
Donc c'est vraiment un grand merci et un grand bravo à l'équipe Ninja Squad parce qu'ils m'ont rendu la vie plus facile avec Angular, ce qui n'était pas du luxe.
C'est super facile, l'Angular. C'est pas du JSF en plus facile.
Ouais. Et alors, vu aussi à une nouvelle version, la 2.6. Alors, la 2.6, elle est principalement architecturée autour des slots. Les slots, il faut savoir que c'est une spécification qui est en cours au niveau des web components et ça va permettre de venir rajouter du contenu dynamique au template. Les templates étant des fragments de code qui ne sont pas affichés tout de suite, en fait. C'est des fragments de code qui sont chargés et qui peuvent être affichés plus tard dans le rendering. Et donc, les slots vont nous permettre de rajouter des parties dynamiques là-dedans. Et ça a été intégré par Vue. Alors, en fait, là, ils sont en train de travailler sur le prototype de la 3.0 et ils ont découvert des manières de l'améliorer qu'ils pouvaient backporter dans la 2.6, donc ce qu'ils ont fait. Il y a notamment une nouvelle syntaxe qui va unifier l'usage des slots normaux et des slots de scope. Bon, je vais pas rentrer dans le détail, vous irez voir la différence si vous êtes intéressé. Mais voilà, l'objectif pour la 3.0, c'est d'avoir la même implémentation entre les deux, parce que ce sera plus performant, tout simplement. Et déjà, en passant sur la nouvelle syntaxe, vous aurez des améliorations de performance. Il y a d'autres petites nouveautés aussi, mais je rentre pas dans le détail parce que j'en ai mis la dose et qu'après je vais me faire gronder. Donc la grosse nouveauté côté polymère, mais pas que, c'est lit HTML et lit element. ça va être la nouvelle façon de déclarer des composants dans Polymer. Alors, lit.html, c'est une librairie qui va permettre de faire du templating HTML, qui est orientée functional programming, donc on va pouvoir exprimer notre UI de manière déclarative, on va déclarer une fonction qui prend des valeurs en paramètres, typiquement nos paramètres d'attributs, bon bah maintenant on les déclare comme ça. Et surtout, ça va être plus efficace au niveau du rendering, c'est-à-dire qu'au niveau de la mise à jour, ça se passe pas sur un diff, c'est que l'élément, il va se souvenir que, ah ouais, mais ça, cette valeur-là, elle a été introduite là, et donc la mise à jour va être beaucoup plus efficace. En plus, c'est du pur JavaScript. Et donc voilà, c'est une librairie qui vient d'être réalisée et qui est extensible. Et lit.element, de son côté, c'est une classe de base pour faire des web components qui va utiliser lit.html. Donc, normalement, quand on fait des web components, ce qu'on fait, c'est qu'on crée notre classe et puis elle extend web component. Et là, en fait, elle va extend lit.element et ça va nous donner accès à certaines API qui vont nous permettre de gérer plus efficacement les propriétés et les attributs du composant. Moi, il y a un truc que j'ai trouvé hyper sympa, par exemple, c'est que normalement, quand on donne des propriétés à notre quand on donne des attributs à notre web composant, et ben on est obligé de faire un truc un peu crade qui est de dire alors let name égale this get attribute name, et là on peut déclarer une property, on met un add property name égale clac et voilà. Donc c'est assez sympa, j'ai très très envie de jouer avec, et donc c'est la nouvelle manière de déclarer les composants dans Polymer.
Eh ben dis donc Audrey.
Et là je sens que je vous ai perdu tous les deux, que vous êtes blasés.
Eh ben dis donc, mais non attends, moi je suis un développeur web, attends mais depuis le
c'est ça.
Vachement longtemps.
Ah t'as même fait du CSS.
À fond, enfin moi les JSP ça va bien.
Alors, comme il en faut pour tout le monde, il y a aussi une nouvelle version de React, donc la 16.
Oh non !
Mais si.
Oh, j'ai rien compris à React, j'ai rien.
Mais si, mais c'est
vas-y,
génial React, nous. C'est trop bien. La 16.8. Alors en fait, c'est une version qui n'amène que, alors c'est un gros guillemets entre guillemets, hein, que les hooks. Les hooks, ça va vous permettre d'utiliser le state React et d'utiliser d'autres features, mais sans écrire de classe. Et donc ils étaient en alpha. Là, c'est la première version stable. Alors, il y a une implémentation stable pour React DOM Server, pour React Test Renderer et pour le Shallow Renderer. Pour pouvoir les utiliser, il va falloir mettre tous vos packages à jour. Hein. Si par exemple vous oubliez le React DOM Server, bah ça marchera pas. Le support dans React Native, il sera en 0.59. Mais c'est déjà supporté par les outils de tooling, il y a les API de test qui vont bien, etc. Globalement, le point de vue de la team React, c'est de dire vous mettez pas en PLS par rapport à ça, il n'y a pas besoin de les apprendre tout de suite, et c'est pas la peine de réécrire tout votre code tout de suite. En fait, eux, ce qu'ils conseillent plutôt, c'est de dire bah vous l'implémentez petit à petit. Je sais pas, vous développez un nouveau composant, bah vous essayez de l'utiliser et puis vous voyez comment ça se passe et puis vous n'hésitez pas à leur faire du feedback. Mais voilà, une petite feature assez sympa, assez prometteuse, je pense. Et puis côté Progressive Web Apps, et ben le Google Play Store est maintenant ouvert aux Progressive Web Apps.
Ça c'est pas mal, ça.
Ça c'est la grande classe.
Ça c'est pas mal.
Ouais. Donc la version 72 de Chrome pour Android embarque une fonctionnalité qui s'appelle TWA. TWA, en fait, ça va permettre d'afficher un navigateur Chrome en full screen dans une app Android sans avoir l'UI du navigateur. Donc il n'y aura pas les bookmarks, il n'y aura pas la barre de recherche, etc. Et ça fait que ça va donner accès à l'application à des fonctionnalités de Chrome qui ne sont pas accessibles dans une WebView, qui est le WebView étant une espèce de version dégradée du navigateur qui est utilisée dans les applications qui sont générées, les applications hybrides, typiquement, tout ce qui est Cordova, etc. Et donc pour le moment, la publication n'est pas hyper évidente, elle se fait en utilisant une API Java qui communique avec Chrome, mais il faut savoir que la fonctionnalité, elle est vraiment à ses débuts, elle a été inclue dans la livraison à la dernière minute, donc c'est vraiment le tout début. Mais c'est sympa parce que ça va donner plein d'options aux développeurs PWA, aux applications PWA, ça va permettre par exemple de mettre un widget home screen. Ça va permettre de proposer des apps pour tout ce qui est montre, voiture, etc. Ça va permettre de réinstaller l'application après une restauration, ce qui n'est pas rien, de la monétiser, de mieux supporter l'internationalisation, tout ça. Donc, pour être éligible à ce déploiement via le Google Play Store, il faut juste respecter quelques critères, c'est-à-dire qu'il faut avoir un score de 80 sur 100 dans Lighthouse. Lighthouse, c'est un outil, c'est très bien fichu ce truc, qui vous permet d'auditer votre application PWA, de voir les points où vous êtes pas très bon en performance, comment vous pouvez l'améliorer, etc. Et voilà, donc vous pouvez le faire tourner avant de publier, hein. Ça va pas être, c'est pas vous publiez le truc et vous faites jeter par surprise, vous avez le temps d'améliorer le truc de votre côté avant de le pousser. Et il faut utiliser Service Worker, ça c'est un peu au cœur de PWA, il faut avoir un web app manifeste, etc. Mais voilà, donc c'est vraiment vraiment chouette. C'est moi les PWA, c'est un truc auquel je crois vraiment. Donc là ça.
Ouais, ouais.
Ça remet un petit coup de.
Là c'était une belle annonce, ouais. Ouais, c'est vrai.
Ouais, très chouette.
Bon, mais sinon là, on n'arrête pas de parler de Chrome, Google Chrome. Vous utilisez tous Chrome, vous êtes tous à donf Chrome, Lighthouse Chrome, machin.
Alors, en fait, moi, je suis encore dessus par grosse flémingite aiguë et c'est très très mal. Tout simplement parce qu'il y a eu une époque où Firefox était quand même bien à la ramasse et que on a été beaucoup, ouais, je pense, à basculer sur Chrome et en fait je suis en train d'essayer de faire la bascule inverse, tu vois, j'ai réinstallé Firefox, enfin je l'avais toujours installé mais je m'en sers toujours pour certains trucs.
Mais tu l'utilisais jamais, ouais.
Bah,
ouais.
Si tu veux, je m'en sers pour débugger, je m'en sers parce que t'essayes de tester sous plusieurs navigateurs, mais là je suis en train d'essayer de le repasser petit à petit. Faut que je réimporte tout, c'est le seul truc, faut que je prenne 5 minutes pour le faire, mais de réimporter tous mes bookmarks dans Firefox et de reprendre Firefox par défaut. Et tu vois, je l'ai remis sur mon téléphone, c'est le navigateur par défaut, etc.
Parce que c'est vrai que là, il y a un bel article là de Zeldman, un bon blog, qui dit, bon, les gars, Chrome, c'est Chromium. Maintenant, Chromium, c'est Microsoft. En fait, voilà, quoi. Il n'y a plus que Chromium. Firefox est délaissé. Chers amis développeurs, développeuses.
C'est le sujet qu'on abordait dans le dernier épisode News avec Guillaume et Emmanuel. C'est que effectivement, avec le shift de Microsoft qui décide de passer sur Chromium comme moteur de rendering, eh bien, Firefox est la seule alternative sur le marché. Et c'est vrai qu'il disait ça très bien dans l'article. Il disait, si on veut pas se retrouver à la période où IE6 c'était la référence et où le web a pas avancé pendant 10 ans, et ben il faut tester sur Firefox. Il faut faire vos démos en Firefox. Il faut remettre dans la tête de tout le monde qu'il y a une autre alternative, qu'elle est sérieuse, qu'elle s'appelle Firefox et qu'elle est indispensable pour que l'innovation dans le web ait un avenir.
Parce que mine de rien, Chrome c'est quand même la boîte qui génère de l'argent avec de la pub sur Internet et qui là va déployer son adblocker sur Chrome,
ouais, voilà,
à partir de l'année prochaine. Donc c'est vrai que ça fait un peu flipper, hein, mine de rien. C'est Big Brother. Alors moi je fais de la pub, je mets des adblockers, comme ça je bloque pas mes pubs à moi, mais je bloque celles des autres. Alors bien sûr ils vont dire que non, hein, ils vont dire que c'est pour notre bien. Tout le monde utilise Chrome, on n'utilise plus Firefox. Il y a quand même une mainmise de Google.
Non, alors tu vois, faut relativiser. Moi j'ai encore pas mal de collègues qui sont que sous Firefox. Hein. C'est pas tout le monde. Par contre, je pense que le grand public, lui, ne connaît plus que Chrome, et c'est là aussi où il y a un danger.
Ouais, ouais.
Et effectivement, donc l'histoire du bloqueur de pub, c'est l'article qu'on vous a mis après. Alors, le bloqueur de pub de Chrome, il avait été lancé en décembre 2018 dans la version 71. Il a été lancé aux US, au Canada, en Europe, et il va être intégré à tous les pays du monde le 9 juillet 2019. Alors, point important à mentionner, ils n'ont pas pris leur décision tout seuls dans leur coin, tu vois, pas non plus.
Oui, c'est vrai.
En fait,
c'est
ça
vrai.
Se base sur les directives qui ont été développées par la Coalition for Better Rights. Donc, moi, j'ai été voir de Coalition for Better Rights qui est dedans. Et bah, tu as, t'as le Washington Post, t'as Unilever, t'as des compagnies dont j'ai jamais entendu parler. Enfin, il y a beaucoup d'acteurs. C'est pas Google tout seul qui a fait son truc. Et l'idée derrière cette initiative, c'est de dire, ok, donc la publicité est un petit peu le modèle économique de base de la plupart des plateformes et des navigateurs qu'on utilise, etc. Soit. Maintenant, il faut pas non plus que ça devienne n'importe quoi. Et donc, cette coalition a déterminé des donc des limites en fait. Voilà, elle interdit au site web, par exemple, d'utiliser des stratégies publicitaires qui sont considérées comme intrusives. Ça peut être le lancement automatique de vidéos avec le son, par exemple. Ça va être les pop-ups, ça va être les choses comme ça. Donc là, ce qui se passe, c'est que les sites sont prévenus à l'avance. Quand ils ne respectent pas ces directives, ils ont 30 jours pour s'y conformer, faute de quoi les annonces sont filtrées. Et ça a l'air de fonctionner parce que 2/3 des sites étaient conformes début 2019. Il n'y en a pas tant que ça non plus hein, qui sont hors des rails. Et il y en a seulement 1% qui avaient vu leur contenu filtré. Mais c'est vrai que ça pose quand même des questions éthiques puisque c'est Chrome qui décide que... C'est tout l'enjeu qui était bien résumé effectivement dans l'article juste avant, de dire eh ben c'est quand même compliqué de laisser à un acteur qui a déjà une situation de monopole de folie de décider de ce qui doit être implémenté, ce qui ne doit pas l'être, ce qui n'a pas d'intérêt, etc.
Développeurs, développeuses, tous à votre Firefox.
Et sur Quant. Allez hop.
Allez bim. Allez, on passe à la section outillage.
Ah non, t'oublies les data, eh.
Oh, 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 pardon.
Katia va t'engueuler.
Flûte, data. Oh là là, Katia, oui, alors, data, donc on parle pas de base de données, le NoSQL, de toute façon c'est terminé, Oracle, machin bidule, InfiniSpan, voilà, donc on a InfiniSpan 10 qui est sorti en alpha, et puis une mise à jour sur InfiniSpan 9. Alors moi j'ai pas suivi les dernières versions quand même, hein, je l'avoue, j'ai pas tout suivi. Est-ce que Arnaud, Audrey, vous avez suivi ?
Alors Arnaud, je sais pas s'il a sa perceuse infernale toujours derrière lui. Le pauvre Arnaud, vous ne l'entendez pas parce qu'il a des problèmes de perceuse.
Non, non, je suis là, mais mon silence en dit long.
Alors en fait, la 10.0.0, c'est une alpha 3, y a quelques fonctionnalités, comme par exemple, il y a le support de la configuration au format JSON. Il y a le transfert d'état qui devrait maintenant préserver le timestamp de création des entités. Il y a la sélection du client hot rod qui peut se faire automatiquement, des choses comme ça. Et puis il y a de la suppression de code qui est déprécié. Il y a du code qui est déprécié depuis quelques temps qui donc là part à la poubelle. Donc ça vaut le coup que vous ayez voir le doc de release pour voir si vous êtes impacté ou pas. La 9.4.6 final, c'est plus une micro-release en fait qui va plus amener de la stabilisation. Voilà. Par exemple, il y a une meilleure gestion des événements Spring Session, des choses comme ça. Voilà. C'est pas non plus, c'est pas des releases majeures, mais voilà. Du fait qu'il y a cette suppression de code déprécié, ça vaut le coup d'aller y jeter un œil.
Ouais, bien sûr. Bon bah là, on passe à l'outillage. Alors il y a un truc qui, moi, je trouve hyper bluffant, c'est Spring. Le framework Spring a migré toutes ses Jira vers des issues GitHub en gardant les liens. Donc si vous allez sur jira.spring.io/ et un numéro de Jira, et ben bim, vous allez sur une issue GitHub. 15 années, ils disent, 15 années d'historique Jira. Ils ont tout migrer sur GitHub, ça me paraît totalement fou comme
projet.
C'est
énorme, hein. C'est complètement.
Ah, ils mettent pas le nombre d'issues, mais enfin, c'est totalement fou. Ils ont gardé les liens.
Il y a pas le nombre d'issues, mais il y avait plus de 17 000 commentaires.
Incroyable, ils ont gardé les commentaires et tout, mais je sais même pas comment c'est possible, quoi. Je sais même pas. Donc voilà.
Alors la motivation derrière cette migration, parce que évidemment, on fait pas une migration de cette taille-là sans raison. Hein. La motivation, c'est que, voilà, le constat, il est qu'à l'heure actuelle, GitHub, c'est l'endroit où se trouvent tous les projets open source, dont chacun des projets Spring. Et donc, on peut raisonnablement s'attendre à ce que tous les gens qui souhaitent contribuer à Spring aient un compte GitHub. Et donc, c'est un petit peu délicat de leur demander de maintenir un compte séparé pour traquer les issues sur Jira. En plus, il y a des bénéfices qui arrivent avec le fait de colocaliser le code et les issues. Par exemple, ça va être de pouvoir mentionner ou notifier un contributeur. C'est aussi le fait que, par moment, c'était pas toujours évident de déterminer ce qui, dans une discussion, devait figurer dans la pull request ou ce qui devait figurer dans l'issue Jira. Le distinguo était pas toujours facile à faire. Il y avait aussi le fait, ça paraît bête comme ça, enfin voilà, c'est ce qu'il disait, c'est que c'était pas quelque chose de prioritaire, mais que en fait quand tu y réfléchis, c'est un vrai petit plus. Le markup wiki, ça supporte pas bien l'inclusion de code, en fait. Quand t'as une discussion qui porte sur du code et que tu veux mettre des extraits de code, c'est la galère. Alors que le Markdown, ça se fait tout seul. Donc, voilà, c'est des petites choses comme ça. Et puis, bah, il y avait peut-être l'argument final, on va dire, c'est que la plupart des devs qui utilisent Spring aujourd'hui le font à travers Spring Boot. Et Spring Boot a toujours eu des issues GitHub. Donc, voilà, ça devenait plus logique de dire, eh ben, on abandonne Jira et on passe à GitHub. Alors, bah, comment ils ont fait ça? Il y a une API, hein, GitHub pour la migration. Ça n'a pas été hyper simple parce que on l'imagine aisément, migrer 15 ans d'historique, c'est forcément un peu compliqué. Mais GitHub a été hyper réactif, ils les ont vraiment bien aidés. Donc la migration s'est faite en 8-9 heures. Bon, après, il a fallu repasser quelques heures pour faire une seconde passe. Et puis, ils ont repris quelques jours pour vérifier qu'ils avaient rien perdu, en fait. Il y a des choses intéressantes parce que par exemple ils expliquent que bah le markup ça a été une vraie plaie parce que ils ont beaucoup de XML qui est présent dans les commentaires et Markdown a interprété ça comme de l'HTML ou alors pas. Alors ça j'ai trouvé ça très drôle. Il y a des utilisateurs GitHub qui s'appellent bin, configuration ou component. Donc quand dans les discussions, quand dans les discussions il y avait des @bin add configuration, add component, en fait, ça pingait des gens.
Ah, c'est bon, ça.
Voilà. Il y avait ça, il y avait le fait que, t'as des alias, qui étaient utilisés sur Jira, enfin, des comptes de personnes, genre Brian, Andy, etc. Bah oui, mais c'est pas les mêmes personnes sur GitHub, donc les gens se retrouvaient notifiés, etc. Donc, enfin, voilà. Ils ont travaillé avec GitHub là-dessus.
Quel boulot de migration.
Hein. C'est un truc de fou. Et donc, si vous aviez, enfin, ne soyez pas effrayés si jamais, par cette migration, toutes les issues en fait comportent encore les infos Jira en bas de page, les fils Jira, une partie des fils Jira a été convertie en label GitHub, donc voilà, je pense que même pour les utilisateurs, la migration se fera bien, quoi.
J'ai pas regardé en détail, mais moi ce qui me pose comme question, c'est justement les comptes utilisateurs, parce que enfin, je pourrais très bien avoir un compte chez Spring et pas avoir de compte chez GitHub. Et pas en vouloir potentiellement, donc ils ont quand même créé des faux comptes ou des faux pour représenter les gens qui avaient créé pendant 15 ans des commentaires et des comptes chez eux. C'est, je sais pas, je trouve ça un peu bizarre tout de même.
Alors effectivement cette partie là n'était pas mentionnée parce que le postulat de départ c'était de dire bon bah a priori maintenant tout le monde a un compte sur GitHub, ce qui est pas tout à fait faux, tu vois, je connais très peu de gens qui n'ont pas un code GitHub, hein. Après t'es actif dessus plus ou moins, mais effectivement je vois ce que tu veux dire, ouais.
Oh mais c'est même pas ça, je pense que quand tu reprends l'historique de 15 ans, enfin tu t'imagines bien qu'en 15 ans il y a des développeurs qui ont changé de métier, ils tapent peut-être plus de code, ils sont peut-être plus sur GitHub, enfin tu vois, 15 ans c'est très très long.
Ils sont dresseurs d'ours ou éleveurs de chèvres dans le Larzac, tu vois, et...
Bon, en tout cas, moi je trouve que Spring se marque, vachement avec Microsoft. Moi, je dirais que ça sent le rachat en 2022 ou 2023, parce qu'il y a aussi Spring Boot maintenant sur Visual Studio Code. Alors moi, j'ai pas super utilisé Visual Studio Code. Hein, je suis encore hyper fidèle à IntelliJ, donc je connais pas le support qu'il y avait avant et maintenant. Je sais pas si vous utilisez VS Code.
Moi, je m'en sers pas, mais en fait, je suis comme toi. Je suis toujours accro à mon IntelliJ. Je fais tout dedans, etc. Mais je sais qu'il y a beaucoup de développeurs qui passent dessus, et c'est pour ça que je me suis dit que il fallait qu'on le mette dans les news parce qu'il y a, je pense, des gens que ça peut intéresser. De ce que j'ai lu dans l'article, a priori, ça te donne un niveau de support qui est équivalent à peu près, peut-être pas complètement, mais à peu près à ce qu'on a dans IntelliJ. Hein. Donc tu vas avoir de l'autocomplétion pour de l'autocomplétion, des features de validation. Tu vas pouvoir générer tes projets Spring Boot, aller chercher les dépendances. Tu vas pouvoir lancer, stopper, débugger tes applications, etc. Donc, mais je dirais pas que c'est Spring qui se maquille avec Microsoft. Hein. Là, pour le coup, je pense que c'est plutôt Microsoft qui regarde le marché.
On en reparlera, Audrey. Épisode 204. En février 2019,
voilà,
on en reparle.
Dans le 304,
en 23,
on verra ce qui se passe.
On en reparlera.
Mais voilà, je pense plutôt que c'est Visual Studio qui continue. Ce qui est bien, parce que Le fait d'aller se pencher sur Spring Boot, c'est qu'ils sont, ils ont pas du tout l'intention de se limiter à la communauté .NET, etc. Et au contraire, ils vont voir, bon bah ok, les développeurs Java, leur cam c'est Spring et Spring Boot, et ben on y va. Donc c'est pas mal. C'est, tu vois, on en, c'est, ouais, c'est comme pour ouais, le ouais. pour les navigateurs, c'est important d'avoir une solution.
C'est comme pour les navigateurs, ouais. Parce que pour le coup, je trouve qu'Eclipse est vraiment en perte de vitesse. Moi, je croise de moins en moins cette IDE, moi chez mes clients. Bon, c'est peut-être une vue de l'esprit, hein, mais c'est vrai que VS Code est en train de rentrer en force. Même dans notre monde à nous.
Ouais, et régulièrement, tu vas en conf. Maintenant, il y a beaucoup de speakers qui font leurs démos sur Visual Studio Code.
Ouais. Ouais,
donc,
ouais.
C'est une vraie alternative, je pense, et c'est bien.
Bon, sinon, à propos de rachat, là, on va encore attendre un peu le rachat de Spring par Microsoft. En tout cas, il y a eu le rachat de Travis CI par Idira, qui maintenant a vachement d'outils, là. Donc voilà, Travis a été racheté pour le meilleur quand on lit le blog.
Ouais, complètement, hein, parce que ils expliquent bien que les projets open source continueront à être hostés gratuitement, que la version open source elle continuera à recevoir des nouvelles features. Le code reste open source et sous licence MIT. Et d'ailleurs, la fondation Travis, qui est à la base d'initiatives comme Rails Girl, Summer of Code, etc., non seulement les initiatives seront conservées, la fondation continuera à exister, mais elle recevra un soutien, a priori, financier plus important. Donc c'est pour les mieux. Alors moi, après, Idera, je connaissais pas plus que ça. Je sais pas vous.
Pareil, je connaissais pas plus, non.
Non, aucune idée. Enfin, je l'ai découvert quand ils ont annoncé le rachat. Je connaissais pas non plus. Mais effectivement, enfin, ça va avec toutes la consolidation. Enfin, nous, on l'a bien vu puisque nous, chez CloudBees, on avait racheté CodeShip là, il y a un an, tout juste. On vient de fêter la bougie. On a soufflé sur la bougie. C'est doit être aujourd'hui d'ailleurs, je crois. Mais voilà, il y a une consolidation de tous les acteurs de CI/CD aujourd'hui, avec les nouvelles technos qui vont avec.
D'ailleurs, je sais pas si t'as vu, hein, mais ils disent que c'est le plus gros acteur de CI/CD à l'heure actuelle. Hein.
Oh
alors là, je ne relèverai même pas tellement c'est fou. D'ailleurs, je vais rajouter une news puisque je l'avais pas mise dans les notes avant, mais Jenkins aussi donc évolue puisque va être créé. Vous connaissez la Linux Foundation, voilà, qui est connue, et donc il y a différentes sous-fondations comme la CNCF, si je me trompe pas, c'est celle où il y a Kubernetes, toute la cloud native.
La cloud native, ouais, j'ai plus tout à chaque fois, mais oui.
Oui, il m'en manque un aussi.
C'est ça.
Et donc en fait, la communauté Jenkins est en train de travailler avec la Linux Foundation pour créer une nouvelle donc sous-fondation pour pouvoir héberger tout ce qui est CI/CD. Voilà, donc ça a été annoncé là il y a quelques jours, je crois, sur les mailing lists Jenkins et autres. Mais voilà, donc on va créer une Continuous Delivery Foundation au sein de la Linux Foundation, dans lequel il y aura Jenkins X et potentiellement d'autres acteurs, que ça soit entreprise ou que ça soit projet, etc. Voilà. Donc ça évolue aussi côté Jenkins, pour le coup que je connais mieux que celui de Travis. Mais voilà, on est dans cette logique de standardisation des environnements, des fondations, des entreprises. Voilà, la consolidation derrière tout ça.
Bon, avec des mises à jour sur GitLab et Gradle, je vois plus de news. Maven, Arnaud, il se passe quoi là?
Si, je crois qu'il y en a une nouvelle mise à jour qui est en train de se préparer, mais ça reste encore mineur. Mais bon, enfin, maintenant qu'on a la couleur, si tu veux, c'était le Saint Graal. Là, on l'a eu il y a quelques temps. Donc voilà, ça y est, maintenant Maven, c'est parfait, c'est un outil parfait que tout le monde utilise. Donc il n'y a plus besoin de s'embêter. Mais non, il y a quand même des sujets en cours. Il y aura peut-être des news, j'espère, un peu plus tard. Mais oui, bien sûr, évidemment, ça va doucement.
Oh.
Et donc, ce qui est rigolo dans les nouveautés de Gradle, c'est qu'enfin, ils supportent la notion de... alors, une des nouveautés de la version 5.2, c'est ça, c'est la 5.2?
Oui, c'est ça, c'est la 5.2, ouais.
Ils ont enfin intégré la notion de BOM qu'on avait dans Maven depuis très longtemps. Et donc de pouvoir setuper, et bah donc justement ceux qui font du Spring Boot ou ce genre de choses qui veulent pouvoir setter les versions de plein de dépendances d'un coup, d'avoir un système qui soit compatible côté Cradle. C'est une des nouveautés, mais il y en a beaucoup d'autres.
Ils avaient même pas de bombe, la honte.
Oh, bah attends, ça va, ils ont plein d'autres trucs hein. Maintenant il y a un nouveau plugin C++ notamment, et il est recommandé de l'utiliser à la place de celui qui est existant. Alors c'est pareil, allez jeter un œil parce qu'il y a des fonctionnalités qui sont devenues obsolètes et qui sont maintenant dépréciées, qui seront supprimées dans la 6.0, donc vous faites pas avoir quoi. Et GitLab qui sort une 11.7 dans laquelle alors c'est une release notamment qui va permettre de livrer des, enfin dans les releases, les nouvelles releases GitHub, on va pouvoir livrer des snapshots qui contiennent tous les artefacts qui sont liés, ce qui est une étape vers une orchestration de release qui va être plus robuste. Bon, il y a des features ultimate et premium, donc ça enfin il y a un npm registry par exemple directement dans GitLab, dans GitHub en fonction premium. Mais il y a un truc que j'ai trouvé hyper sympa, il y a une feature de sécurité qui va lever une alerte quand une vulnérabilité est détectée dans les projets Node.js qui sont buildés avec Yarn. Et donc, GitHub va vous lever l'alerte, va vous fournir, quand c'est possible, un fichier de patch, vous avez juste à le télécharger, à l'appliquer et c'est fait. Et il y a aussi une API d'intégration avec Kubernetes d'ailleurs, hein, parce que Kubernetes.
Ils le font aussi sur Maven hein, désormais, enfin GitHub là-dessus ils sont quand même assez forts hein, avec le scan des security issues, ils le font aussi même maintenant sur les projets Maven. Ils te disent automatiquement, là dernièrement j'avais encore reçu une update sur Jackson qui a eu un security fix etc, donc ils te taguent automatiquement tous tes projets en disant ah attention tu utilises une version de Jackson qui a un security hole, donc faut updater, donc c'est pas mal.
Et toujours sur la sécurité d'ailleurs, je te laisse enchaîner Antonio, mais...
Oui, c'est ce que j'allais dire, et toujours sur la sécurité. Google DNS Service supporte DNS over TLS Security. Alors là, j'ai pas du tout suivi.
Alors.
Mais je sais qu'Arnaud a suivi.
C'est... vas-y Arnaud, je te laisse...
mais non, je déconne.
Le pauvre Arnaud, il a pris cher avec Devox France, sois gentil avec lui.
Ben oui.
Faut lui faire des câlins. On te fait des câlins, Arnaud. Voilà.
Merci.
Sache-le. Non, alors en fait, c'est une petite news, mais qui a son importance. Il faut savoir que les deux DNS publics de Google, donc il y a le 8888 et le 8884, c'est les plus gros résolveurs DNS du monde. Et donc ils vont supporter maintenant ce protocole DNS over TLS, qui est tout simplement, c'est un protocole qui permet de rendre plus difficile, ça empêche pas complètement, mais ça rend beaucoup plus difficile les attaques de type man in the middle. Voilà. Parce que le fait est que sans cette option, sans ce protocole, tout le trafic est envoyé en clair. En fait, les requêtes comme les réponses sont envoyées en clair. Ça permet à des gens d'intercepter le truc et de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Et voilà. Donc c'est un changement important, même si pour l'intégrité de votre vie privée, je ne vous conseille pas d'utiliser le DNS Google.
Google is everywhere.
Absolutely everywhere. C'est dingue. Bah on va en parler, tiens, de Google.
Bah oui, tiens, allez, bah on n'a qu'à commencer par ça, peut-être, non ? Donc là, on est sur la partie loi, société, organisation, enfin, la life. Donc la partie un peu moins tech.
Alors, les gars, j'ai une proposition à vous faire pour cette partie.
Quoi ?
Je pense qu'on devrait mettre un petit générique d'Alas.
Ça serait pas mal.
Parce que comme il y a quand même des espèces de sujets un petit peu récurrents, tu vois, c'est-à-dire que t'as l'impression que t'as vu le pire et que non, le pire est toujours possible.
Genre le procès Oracle, mais Google,
non ? Oh, ça c'est rien, ça encore. Ça c'est l'énième rebondissement. Ça c'est le côté plus belle la vie de la saga, tu vois.
C'est léger ça à côté. Ouais.
Mais oui, alors en fait, on vous en avait parlé. Donc il y a eu deux jugements qui étaient en faveur de Google. Dont Oracle a fait appel et à chaque fois ils ont eu gain de cause, et donc la dernière fois qu'on en avait discuté, bah, on vous expliquait que là la seule option de Google c'était soit de faire appel à nouveau, soit d'en appeler à la Cour suprême des États-Unis, ce qui semblait peu probable parce qu'en fait la Cour suprême avait quand même expliqué clairement qu'elle voulait pas trop mettre son nez là-dedans, et pourtant c'est le choix qu'ils ont fait. Donc ils ont fait un long article de blog pour expliquer non pas les raisons qui l'aient mené à faire ce choix-là, mais plutôt à dire c'est pas bien, ils sont en train de tuer l'innovation, etc. Bon, et la suite est à voir.
Bon, puis il y a quand même, parce que on tape beaucoup sur Google, mais il y a Amazon, AWS, qui dernièrement, c'est pas super. Vous vous souvenez des Redis, des MongoDB et tout, qui avaient dit on en a ras-le-bol que notre outil open source permette à AWS de faire énormément d'argent. Donc ils avaient imaginé une licence un peu différente. Et puis Amazon, AWS a dit ok, d'accord, bon bah puisque c'est comme ça, je vais faire une base de données. Donc il y a cet article sur DocumentDB.
Ouais.
AWS lance DocumentDB qui est a priori techniquement assez proche de Mongo. Et ils ont beau dire que c'est pour des raisons techniques, scalable, rapidité. Quand on lit l'article, on voit bien qu'il y a quand même un problème de licence. Est-ce que ça serait pas AWS qui aurait créé un truc pour arrêter d'utiliser tous ces outils?
C'est hyper intéressant parce que on en a pas mal discuté dans le dernier épisode aussi, et voilà, sur notamment les questions que ça lançait en termes de d'open source, parce que est-ce que justement ces nouvelles j'ai plus le mot. Les nouvelles licences qui ont été adoptées par Mongo, par Redis, par d'autres, c'est plus vraiment de l'open source. Bon, voilà. Et effectivement, une des réponses qui pouvait être attendue, c'est de dire, les gars, ils vont prendre, les cloud providers vont prendre, les produits existants et puis ils vont redévelopper leurs propres produits dessus. Et là, c'est exactement ce qui se passe parce que, en fait, donc la DocumentDB, c'est une base de données qui est compatible avec l'API de MongoDB 3.6.
Trop fort, les mecs.
Sauf que la 3.6, c'est une version qui est vieille de 2 ans. Hein. Alors, c'est intéressant parce qu'il y avait les points de vue de tout le monde. Hein. Donc Amazon, leur point de vue, c'est de dire MongoDB, c'est très très bien, mais alors nos clients, ils ont constaté que c'était compliqué de faire des apps qui soient rapides, qui soient fiables, qui peuvent scaler sur des terabytes, se manger des milliers de read and write par seconde. Donc on a décidé de faire le nôtre. Alors il y a tout l'aspect hardware qui va avec, parce que les mecs, ils t'amènent un stockage SSD, 6 réplications, 3 zones de disponibilité, enfin la totale. L'autre côté, il y avait la position du CEO de Mongo qui dit l'imitation, c'est quand même la forme la plus sincère de reconnaissance et de flatterie, hein. Ouais, bon. Et puis il s'est dit c'est une version, il se base sur une version qui a 2 ans. Les développeurs, ils sont pas fous, ils vont faire la différence entre l'original et une pâle copie. En fait, c'est hyper hyper intéressant. Les deux articles sont liés parce que la conclusion de l'article du premier, c'est de dire. C'est pas si simple que ça, parce que en même temps, Mongo pense qu'AWS les adore, parce que la possibilité pour AWS de proposer Mongo a participé à l'adoption d'AWS en tant que provider.
Bien sûr.
Et eux, ils disent mais nous, de ce qu'on voit de nos clients, ils ont maintenant le sentiment un petit peu d'être pieds et poings liés avec des cloud providers, et ils aimeraient récupérer de la liberté là-dessus. Et alors le deuxième article qui s'intitule AWS MongoDB and the economic realities of open source est hyper intéressant. Il fait une comparaison entre le marché de la musique et celui du logiciel, où il explique que pendant longtemps, ce que l'industrie musicale a vendu, c'était pas de la musique, c'était des disques, c'était des galettes là dans des petits boîtiers plastiques, et que au moment où il était devenu plus facile de consommer la musique en ligne, le marché a dû se repositionner. Il a eu quelques années très très difficiles et il a dû reconsidérer ce qu'était son cœur de produit. Et il faisait le parallèle avec le marché du logiciel en disant le marché du logiciel aujourd'hui, c'est plus de vendre des licences, c'est de vendre du software as a service, comme le fait déjà Microsoft, comme le fait déjà Amazon. Et que pour que ce service soit adopté, il faut qu'il soit le plus efficace possible. Et donc, dans cette logique, ce que vend AWS, c'est pas MongoDB. C'est de la performance, c'est de la scalabilité, c'est de la disponibilité. Et finalement, DocumentDB, c'est juste une manière d'implémenter ces bénéfices pour le client.
Les bénéfices, tu veux dire les bénéfices techniques ou les bénéfices
les, voilà,
financiers?
Voilà, justement, les bénéfices de performance, de scannabilité et de disponibilité, bah, tu pouvais les avoir avec MongoDB, bah, tu peux les avoir avec DocumentDB, ce qui est complètement leur argument, hein, qu'on retrouve bien.
Non, désolé, c'était sarcastique.
Pardon. Enfin, c'est une espèce de serpent qui se mord la queue, parce que c'est un domaine dans lequel ils sont leaders. Hein. On fait souvent référence à AWS parce que le problème est un peu moins fort avec Microsoft et Google, dans le sens où Microsoft est second derrière AWS et que Google a quand même un sacré écart la figure. Mais c'est-à-dire qu'ils sont tellement premiers dans le domaine que c'est un point où le managed service qui est offert par MongoDB, de toute façon, il tourne sur un de ces trois providers-là. Donc ils peuvent essayer de faire cavalier seul, mais ils vont pas y arriver complètement. Et donc se pose la question de dire, bah, si le service d'AWS devient populaire, qu'est-ce qu'il lancera de Mongo? Est-ce qu'il va stagner? Parce que c'est pas sûr que les clients auront envie de manager eux-mêmes leur instance MongoDB. Il est certain qu'ils préfèrent demander à AWS de gérer ça. Et en même temps, effectivement, ils seront pas sur un produit qui sera peut-être aussi performant. En tout cas, il aura pas toutes les nouveautés de MongoDB, etc. Et la conclusion de l'article est vraiment intéressante parce que l'auteur disait, c'est difficile de pas aimer des sociétés comme MongoDB, comme Redis, Confluence, par exemple. Mais le fait est que ce que recherchent les gens à l'heure actuelle, c'est le service qui est proposé par Amazon. C'est cette espèce de facilité, de scalabilité, d'efficacité, tout ça. Et si MongoDB, Redis, Kafka, etc. sont populaires, c'est aussi parce qu'ils étaient open source et que donc ils étaient présents sur ces distributions. Donc oui, c'est pas juste qu'AWS tire profit du travail qui a été fourni par ces sociétés-là, comme c'était pas juste que Apple gagne des milliards avec ses iPods et le piratage de musique à l'époque. Mais alors ça fait un petit peu de mal à lire, mais c'est la vérité. Mais le monde n'est pas juste et il est gouverné par des réalités économiques. Et en même temps, il faut aussi que les cloud providers réfléchissent un peu à la situation, parce que de l'autre côté de la balance, il n'est pas certain que leur service aurait connu le succès qu'ils avaient connu s'ils n'avaient pas pu profiter de logiciels open source.
Oui, bien sûr.
Voilà, et il faut garder à l'esprit que faire du soft, c'est pas leur cœur de métier. Donc finalement, même si c'est pas évident, le constat serait qu'à l'heure actuelle, on est plutôt dans un modèle qui est un petit peu gagnant-gagnant, mais que si il commence à se faire une guerre comme ça entre moi je fais ma licence et moi je fais mon produit, c'est pas sûr que tout le monde reste gagnant-gagnant.
Je crois que j'en ai parlé ici, mais il y a un talk TED, c'était une interview TED de Linus Torvalds qui date de l'année dernière, qui m'avait beaucoup marqué, parce que le mec, il interview Linus Torvalds, et pour faire simple, il lui dit, mais je comprends pas, vous avez créé Linux, vous avez créé Git, et il y a plein de boîtes autour qui font des milliards de dollars grâce à votre soft, est-ce que vous êtes pas un peu deg? Et Linus, il dit non. Parce que moi, je sais développer, mais je ne sais pas vendre. Grâce à ces boîtes-là, mes softs se sont propagés. Si j'avais dû les vendre moi, ils seraient morts. Et c'est une réalité, et c'est un peu ce que tu dis, c'est l'œuf ou la poule. Est-ce que Mongo serait Mongo sans AWS? Est-ce que AWS serait AWS sans Mongo?
Ouais, c'est,
effectivement.
C'est exactement ça. Donc... voilà. C'est vrai qu'on espère tous un monde meilleur où il y aurait une redistribution plus juste, etc. Bon, après ce que mettait l'auteur du deuxième article aussi, c'est que AWS, qui est celui sur lequel on tape le plus, a commencé un peu à donner des retours, à s'investir un petit peu plus dans l'open source. Donc il faut pas désespérer, hein. Peut-être que la situation va évoluer, peut-être que justement tout le monde va prendre conscience de cet état de fait qui est de dire on n'a rien à gagner à se faire la guerre, et peut-être essayons de remettre un petit peu plus d'équité d'éthique et de morale dans ces choses-là, quoi. En tout cas, il faut pas désespérer.
Alors à propos d'éthique et de morale, sachez que si vous êtes consultant RGPD, il y a enfin de la thune à se faire. Puisque non, parce que vers GPD c'est un peu compliqué.
Je me demandais sur quelle news tu partais là comme ça.
Il y a des gens qui ont mis le doigt dedans, et c'est tant mieux parce que c'est hyper compliqué. Et justement là, il y a cet article de la Quadrature qui a déposé devant la CNIL l'année dernière une plainte contre Google, et donc la CNIL vient de sanctionner Google à hauteur de 50 millions d'euros pour une sombre histoire de contacts liés à la pub.
Alors, pour remettre les choses dans le cadre, en fait, la quadrature d'Inet, la plainte déposée par la quadrature d'Inet ne visait pas que Google.
Non, Google, Apple, Facebook.
Elle visait les cinq gros, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft et Google. Dans le cas de Google, la CNIL a été jugée compétente pour trancher sur le sujet, alors que les autres plaintes sont parties devant les CNIL respectivement irlandaises et luxembourgeoises, puisque avec le RGPD, il y a un système de ce qu'on appelle un système de guichet unique, en fait. C'est-à-dire que normalement, c'est la CNIL dont le siège social dépend qui doit traiter la plainte. Donc il y a plein de c'est assez important à savoir, en fait, parce que ça induit plein de choses derrière. Là, le jugement qui a été rendu par la CNIL, il ne porte que sur la partie Android. C'est-à-dire qu'ils ont analysé tout le process de comment ça se passe quand un utilisateur configure un nouvel appareil Android et il va devoir créer un compte, etc. Ils se sont rendus compte qu'il y avait plusieurs manquements au RGPD qui étaient avérés. Il y a le manquement aux obligations de transparence et d'information. Ça, c'est le fait que pour avoir accès à certaines informations, il va falloir faire 5 à 6 actions. Les informations sont disséminées dans plusieurs documents. Et en plus, le résultat, la réponse n'est pas toujours satisfaisante, parce que des fois, il va manquer des informations comme la durée de conservation des données. Donc ça, c'est une première partie. Le deuxième manquement, c'est sur l'obligation de disposer d'une base légale pour les traitements de personnalisation de la publicité. Autrement dit, et ça c'est hyper important parce que c'est vraiment le cœur du RGPD, c'est le fait que le consentement n'est pas valablement recueilli pour deux raisons. La première, c'est que la dilution de cette information dans plusieurs documents empêche le consommateur de prendre conscience de la pluralité des sites, des services, des applications qui sont impliquées dans ce traitement et donc finalement du volume de données qui est traité. La deuxième chose, c'est que c'est vraiment hyper important, c'est que le consentement n'est ni spécifique ni univoque. Il n'est pas univoque parce que la plupart du temps, les cases à cocher, elles sont pré-cochées, ce qui est formellement interdit par le RGPD. Le RGPD mentionne explicitement que le consentement implique que l'utilisateur effectue une action. Et il n'est pas spécifique parce que, avant de créer son compte, l'utilisateur doit accepter les CGU de Google et doit accepter que ces informations soient utilisées telles que décrites ci-dessus et détaillées dans les règles de confidentialité, blablabla. Et donc, il est amené à consentir en bloc pour toutes les finalités poursuivies, ce qui est complètement contraire au RGPD, parce que normalement, on doit accepter en ayant toutes les finalités détaillées. Donc l'amende de 50 millions d'euros, ça peut paraître énorme. En vrai, pour Google, c'est rien du tout. Hein. Ils gagnent 110 milliards de dollars par an. Donc c'est voilà. La CNIL justifie le montant de cette amende par le fait que c'est pas un montant ponctuel, c'est quelque chose qui perdure dans le temps, et par le fait de la responsabilité de cette société au vu de la place prépondérante qu'occupe Android sur le marché français. Et au fait que le modèle économique de la société repose quand même en grande partie sur la personnalisation de la publicité. Donc on est vraiment au cœur de leur business. Et pour la quadrature, c'est pas suffisant parce que là, ce qui a été sanctionné, c'est la partie Android. La plainte, elle concernait aussi YouTube, Gmail et Google Search. Mais, donc au moment où la plainte a été déposée, la maison mère de Google en Europe, qui est en Irlande, n'était pas apte à ce moment-là, elle n'avait pas de pouvoir de décision sur le traitement mis en œuvre dans le cadre de tous les services fournis par Google. C'est la raison pour laquelle la CNIL a pu s'emparer du jugement. Entre deux, Google a fait une petite modification pour dire que maintenant, c'est la maison mère irlandaise qui s'occupe de tout. Et ça, en fait,
ils sont forts.
Eh ben oui, mais il y a une très bonne raison à faire ça. C'est que la CNIL irlandaise, elle est complètement débordée. Et ça, ils savent que ça permet de faire traîner l'affaire, ça va leur permettre de gagner du temps.
Ils sont forts.
Donc là, la position de la quadrature, en fait, c'est de dire, nous, on attend une réponse sur le reste de la plainte et on attend de vous que vous n'acceptiez pas cette pirouette, ce qui va être plus délicat, hein, parce que là, du coup, ça se gère à un niveau européen. Je suis pas sûre que, malgré tout, ils puissent le faire. Et donc, ils attendent que la CNIL sanctionne Google à hauteur d'un montant qui est proportionné à cette entreprise, ainsi qu'à l'ampleur et à la durée de la violation de nos droits. Alors, petit rappel, hein, le montant maximal possible pour une sanction, une amende via le RGPD, pour infraction du RGPD, c'est 4% du chiffre d'affaires. Donc là, on parlerait de plus de 4 milliards d'euros.
Ce qui fait quelques milliards, ouais. Voilà. Ouais, là, clairement.
Mais la volonté vraiment intrinsèque de la quadrature, c'est de dire, on veut que la CNIL reconnaisse que notre consentement, il n'est valide que s'il est librement donné et qu'on nous explique clairement, qu'on explique clairement à tout le monde que Google ne peut pas nous obliger à accepter son ciblage publicitaire avant de pouvoir utiliser ses services.
Ouais.
Voilà. Dans le même genre, là, je l'ai pas mis parce que ça aurait fait beaucoup, mais alors si vous voulez rire, il y a un article, les CGU d'Instagram expliquaient à un enfant de 8 ans, et en fait, vous lisez ça et vous faites, bon bah ok, c'est pas possible. C'est juste complètement scandaleux. Voilà.
Ouais, alors justement, en parlant d'Instagram, Facebook là, il va intégrer WhatsApp, Instagram et Facebook Messenger. Punaise, je sais pas vous, mais moi ça me fait un peu flipper là. Tous ces géants qui intègrent tout, qui se rachètent des apps, qui ont un maximum de données sur nous. Moi, j'ai jamais eu de compte Facebook, et là, j'utilise quand même WhatsApp pour appeler mes potes. Et là, lorsque je vois que Facebook intégrera WhatsApp plus Instagram, mes Messenger, je me dis waouh.
Eh ben ouais, c'est un vrai vrai gros problème. Alors déjà, il faut savoir que ça a causé des départs en interne, hein, c'est-à-dire que les fondateurs de WhatsApp et les fondateurs d'Instagram se sont barrés et qu'une partie des équipes est en train de se barrer parce que justement cette espèce d'unification alors d'abord, c'est pas ce qui avait été convenu quand ces sociétés ont été rachetées, hein, Zuckerberg leur avait promis qu'ils garderaient leur indépendance et puis bah maintenant, pas surprise, vous rejoignez le truc. Donc l'argument avancé, c'est de dire bah, les services, ils vont continuer à fonctionner indépendamment, mais ce sont les infras qui seront partagés, parce que comme ça, ça va rendre les applications encore plus faciles, ça va être encore plus simple de contacter ses amis, sa famille, on aura une meilleure expérience, etc. Bon. Alors, il y a un truc sur lequel néanmoins Zuckerberg a insisté, c'est le fait que toutes les apps devaient proposer un cryptage bout en bout pour protéger les messages échangés, ce qui actuellement n'est le cas que dans WhatsApp. Mais ça pose un vrai gros problème parce que ça induit un regroupement de 3 des plus grosses apps de messaging au monde. Ça représente 2,6 milliards d'utilisateurs. Donc ça pose des vrais problèmes en ce qui concerne bah, tout ce qui est antitrust, en ce qui concerne la sécurité, la vie privée. Alors en plus, l'objectif... Et de livrer l'application, la version unifiée pour la fin de l'année, début 2020 ou plus tard, hein, ce qui est pas hyper simple.
Oh punaise, ben ouais.
C'est pas hyper simple techniquement parce que les applications, elles fonctionnent pas de la même façon. Donc WhatsApp, par exemple, ne stocke pas les messages. Il stocke le minimum de data possible sur l'utilisateur. WhatsApp ne connaît que notre numéro de téléphone, alors que c'est pas du tout le cas de Messenger et d'Instagram. Et donc, les craintes qui sont énoncées, y compris en interne, hein, y compris par les salariés d'Instagram et de WhatsApp, c'est de dire bah ça va loquer un peu plus les utilisateurs au sein de l'écosystème, parce que l'objectif derrière, finalement, c'est de décourager les gens à aller sur des systèmes concurrents. Hein. C'est censé aussi permettre à Facebook bah, de continuer à faire grimper le revenu qui est généré par la pub, voire même d'ouvrir de nouveaux systèmes générateurs de revenus. Parce que le gros problème de Facebook à l'heure actuelle, c'est qu'avec tous les scandales qui se mangent depuis 2 ans, la réputation comme la croissance de la boîte sont un peu en berne.
Oui, enfin là, il y a eu une belle embellie là dernièrement, mais bon.
Ouais, mais voilà, ça, ils en ont pris un coup quand même. Donc voilà, donc il y a eu des gros clashs en interne avec certains employés, notamment parce que les gens qui travaillent sur WhatsApp, par exemple, ont un vrai vrai problème avec cet avenir un petit peu incertain. Et alors, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que le président de l'EFF, donc l'Electronic Foundation, il me manque un F aussi. Ce qui n'est pas l'équivalent de la Quadrature du Net, mais qui est une association qui défend les mêmes objectifs que la Quadrature, a demandé à la Federal Trade Commission d'agir maintenant, de prendre des mesures par rapport à ça, et sachant Facebook est déjà a déjà la Federal Trade Commission sur le dos pour le scandale Cambridge Analytica, on peut s'attendre effectivement à ce qu'elle aille mettre son nez là-dedans. Et il y a vraiment, il y a un truc que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a un élu démocrate de Californie, hein, évidemment, qui a dit, bah voyez, c'est exactement pour ça qu'on aurait dû mettre notre nez au moment où Facebook a acheté WhatsApp, au moment où Facebook a acheté Instagram, parce que là ils sont en train de se retrouver dans, ils sont en train de monter cette espèce de géant là, et si on réfléchissait deux minutes à quoi ressemblait le monde si Facebook était en compétition avec WhatsApp et Instagram, et ben on serait pas dans cette merde en fait.
Et l'Europe a que dalle, quoi. C'est ça qui me rend dingue, c'est que nous, en Europe, on a strictement rien. On a strictement que dalle.
Alors,
ça me fout un peu les boules, moi.
On n'a rien et ça va pas s'améliorer. Ça, on en parlera après. Mais c'est encore, en fait, c'est d'autant plus gênant que Facebook s'est distingué avec un nouveau scandale. Cette fois, ils ont réussi à énerver pas seulement les utilisateurs, mais aussi Apple. Là, les mecs ont fait fort, quand même.
Mais même Apple, ouais.
Voilà. En fait, depuis l'été dernier, Apple n'autorise plus les applications qui collectent des données sur l'historique d'utilisation des applications, les messages privés, les données de géoloc, etc. Elles peuvent plus être publiées sur l'App Store. Mais l'App Store a aussi un programme pour les développeurs d'entreprises partenaires. Donc, ça permet de publier des applications qui seront téléchargées et testées uniquement par les développeurs de l'entreprise en question. Et ça fait que ce process, comme ça censé concerner que les développeurs de l'entreprise, il n'y a pas de review de la part de l'App Store. Alors, Facebook avait une application qui existe quand même depuis 2016. Et cette application en question, elle rémunère des gens de 13 à 35 ans $20 par mois pour avoir mais full access complet au
bar. Ah oui,
bar.
Ça c'est incroyable, ah ouais, non, ça c'est incroyable. Et les gens ils sont contents parce qu'ils ont 20 balles.
Bah non, mais le problème est qu'il y a des gens pour qui 20 balles à la fin du mois, ça fait une vraie différence. Donc tu vois, enfin tu peux pas non plus lancer la pierre à ces gens-là, hein. Le problème c'est qu'il y a des gens, oui, pour qui 20 dollars c'est crucial, ça leur permet peut-être de bouffer à la fin du mois, tu vois. C'est horrible, mais c'est...
Et là, ils tracent absolument tout.
Voilà,
tout ce que tu fais.
Via cette application, les mecs siphonnaient mais toutes les datas du téléphone, un truc de taré. Et ça leur permettait d'observer en fait les tendances. C'est par exemple ce qui a conduit au rachat de WhatsApp, hein, parce qu'en fait, ils font ça depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'ils voient ce qui est utilisé. Par exemple, ça leur a permis aussi de voir que quand ils ont intégré les stories pour faire concurrence à Snapchat, l'utilisation de Snapchat a un peu plongé, choses comme ça. Donc, voilà, c'est crade, c'est très très crade. Et là où ils ont fait très fort, c'est que donc cette application, elle était sur le store. Apple leur a dit, bah non, vous avez plus le droit, vous l'enlevez. Ils l'ont mise dans la partie développeur. Ils ont dit, ah, mais c'est que pour nos développeurs à nous. Puis en fait, ils ont continué à faire pareil. Et donc là, Apple s'est un peu énervé et a dit, bah, on révoque le certificat pour cette application, mais alors pour aussi toutes les applications qui font partie du développeur programme. Voilà. Donc là, Facebook a annoncé qu'il mettait fin au programme de recherche, mais en continuant à déclarer qu'il voit pas vraiment où est le problème. Et puis en fait, c'est de toute façon le problème est plus large que ça, parce qu'il y a aussi une autre application qui a un VPN qui s'appelle Onavo. Alors lui, il a été supprimé de l'App Store, mais il est toujours présent sous Android, qui globalement fait la même chose. Hein, il envoie tout le trafic à Facebook. Il permet d'analyser les usages des consommateurs, etc. Enfin.
Eh ben dis donc, c'est plus Big Brother là.
Ouais, ouais, mais alors, tu vois là, j'ai pas mis dans les show notes parce que j'ai pas eu le temps de le lire, mais Google a une appli qui fait pareil. Donc c'est très 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 sympa. Et puis pour finir rapidement sur un sujet pareil qu'on a déjà évoqué. Vous avez dit qu'on vous tiendrait au courant. Le fameux article 13 est de retour à la Commission européenne. Voilà, donc résumé des épisodes précédents. La directive donc sur le... C'est la directive sur le droit d'auteur qui avait été retoquée en juillet par le Parlement européen a été adoptée le 12 septembre. Mais il y a des articles, en particulier l'article 11 et l'article 13, qui posent encore problème. Le Parlement et la Commission européenne et le Conseil européen, qui donc est le Conseil des États membres, n'arrivent pas à se mettre d'accord dessus. Alors l'article 11, c'est celui sur le droit voisin. Bon, celui-là encore, a priori, il ne leur pose pas trop de problèmes alors qu'il devrait. Et l'article 13, c'est celui sur les contenus qui sont hébergés sur Internet. Donc ça nous impacte tous, hein, parce que c'est vraiment... GitHub avait pris les devants en disant, mais... vous pouvez pas faire ça, nous on upload du code, ça va être infernal, parce que donc ce qui se passe, c'est que toutes les sociétés qui mettent du contenu à dispo, eh ben, doivent vérifier que ce contenu n'enfreint pas des règles de copyright, et donc doivent mettre en place des upload filters, c'est-à-dire des filtres qui vont opérer en avance, qui vont censurer le contenu en avance. Au lieu de faire de la modération a posteriori, ils vont être en avance en charge de juger si le contenu enfreint des règles de copyright ou pas. Ce qui évidemment ne va pas fonctionner, hein, parce qu'un algorithme, il a quand même peu de chances de distinguer, par exemple, si on est en train de parler de parodie ou des choses comme ça, cadre dans lequel le détournement, enfin, c'est pas un détournement de copyright, mais on peut utiliser du matériel qui normalement est sous copyright. Donc voilà, tout le monde s'est gentiment renvoyé la balle, le Conseil européen devait voter la directive pour qu'il y ait un trilogue entre tout ce petit monde, machin. Sachant que là, le but du jeu, hein, c'est de faire passer, de mettre tout le monde d'accord pour faire passer la directive avant les prochaines élections européennes, parce qu'aux prochaines élections européennes, il n'est pas sûr que ça passe. Et donc le point de différent était principalement entre la France et l'Allemagne qui n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur ces upload filters. La France considérait que ça devait concerner tout le monde, toutes les plateformes, quelle que soit la taille des plateformes en question, etc. Et puis l'Allemagne, elle se disait, bah non, faut pas que ça concerne les entreprises qui font moins de 20 millions de chiffres d'affaires par an, parce que sinon les startups, elles vont pas survivre. Ça, c'était plus proche de la position du Parlement. Le Parlement, lui, voulait fixer la limite à 10 millions d'euros ou à moins de 50 employés. Et là, ce qui s'est passé il y a trois jours, c'est qu'il y a un document qui a filtré ou qui révèle un accord franco-allemand qui devrait permettre que le Conseil européen donc valide, d'ailleurs c'est en délibéré aujourd'hui, qui valide cette directive, ce qui fait qu'elle va repartir au Parlement pour être votée. Et donc ils se sont mis d'accord sur trois critères complètement débiles. Il faut que la plateforme soit en ligne publiquement depuis moins de trois ans, qu'elle ait un chiffre d'affaires de moins de 10 millions d'euros par an, et, je dis bien et pas ou, qu'elle ait moins de 5 millions de visiteurs uniques par mois, pour pouvoir être dispensé de ces upload filters, en fait d'être obligé de prouver, parce que c'est ça le truc aussi, c'est qu'elles sont obligées de prouver qu'elles ont mis ces upload filters en place. Donc ça impacte un nombre mais considérable de plateformes, ça impacte des forums en ligne, ça impacte des réseaux sociaux de niche, ça va impacter les startups européennes qui essayent de concurrencer des géants US. Il y avait par exemple l'exemple d'un concurrent polonais de Reddit. Ça impacte même Patreon. Enfin voilà, c'est complètement liberticide. Et donc notre seule chance en fait là, c'est que le Parlement réfléchissent un peu et se disent « Tiens, mais au fait, ce serait pas une idée de merde ?» Voilà, mais donc c'est pas gagné. Hein. Globalement, c'est même franchement mal parti.
Ouais, et je sais pas si les développeurs sont hyper vocaux sur tous ces, sujets, quoi. Enfin bon, c'est toujours un peu le même sujet que nous, on essaye de mettre en place à Devox, hein, avec des keynotes un peu particulières, des cafés philo, des machins, des trucs. C'est vrai que nous, on s'éclate plus à taper du code, mais je me demande s'il y a un moment donné, il faut pas arrêter de taper sur les claviers, puis aller taper sur des gens un peu haut placés, quoi. Et justement, là, il y a plein de conférences qui arrivent, plein. Allez-y, discutez. Bien sûr, allez voir des confs techniques, hein, mais c'est vrai que les conférences en France, on en a beaucoup. C'est vraiment sympa, on croise toujours les mêmes personnes, ça papote. Allez taper du code, allez regarder des confs tech, mais essayez de vous sensibiliser à tous ces sujets aussi, parce que c'est notre outil en fait, hein, tout ça c'est fait par nous. Et il y a un moment donné, on pourra peut-être plus dire c'est pas de ma faute.
Je pense qu'on a une responsabilité sociétale dans le sens où on a les compétences techniques pour comprendre l'impact. Ce qui n'est pas le cas de toute la société, ce qui est complètement normal. Hein, le boulanger, on s'attend pas à ce qu'il ait une expertise sur le domaine. Mais du coup, c'est vrai que ça nous donne une responsabilité parce que on n'a pas le droit de la fermer sur des sujets comme ça où c'est hyper grave et on voit bien l'impact que ça va avoir sur le reste du monde.
Alors justement, là, il y a plein de conférences à côté de chez vous. Allez-y. Il y a, si on fait dans l'ordre, là, il y a la DevFest qui arrive. La DevFest du bout du monde, là, je crois que c'est au bout du monde.
C'est à Brest.
C'est à Brest. Bon, après, il y a un peu plus loin, chez nos cousins, il y a le Confu à Montréal, du 13 au 15 mars. Il y a le Brest Camp. Du 20 au 22 mars, donc en plus j'ai cru comprendre que le Brest Camp cette année changeait de salle, si je ne m'abuse, donc ça va être plus grand, plus beau, plus mieux, plus meilleur. Est-ce que vous confirmez?
C'est plus du tout. Non, alors là, j'ai un gros doute, donc je ne m'avancerai pas sur le sujet.
Bon, il me semble que c'était ça, mais voilà. Donc, vous avez vu, là, il y a Brest, il y a Rennes. Bon, après, il y a l'Espagne, une conférence qui s'appelle GRITCH, je ne sais pas comment ça se prononce, du 28 au 30 mars à Madrid. Il y a, bien sûr, la seule, l'unique conférence d'Evox France à Paris, du 17 au 19 avril. Bon, là, pas de bol, il n'y a plus de place, donc... même si vous voulez venir discuter au café philo, bah si vous n'avez pas votre place, vous pourrez pas venir. Mais
bah, vous venez au meet-up, au meet and greet.
Voilà, ouais, vous venez le jeudi soir. Il y aura à boire, à manger, il y aura des bofs et on pourra parler de plein de sujets. Après, il y a le Voxt CERN qui remet le couvert cette année. Vous savez que Voxt avait fait un événement un peu spécial il y a deux ans au CERN parce que le LHC et il l'arrête tous les deux ans à peu près à ce moment-là là. Il le laisse refroidir, il le répare et puis après il le remet en route. Donc il y aura le Voxt CERN le 1er mai et les heureux élus, parce que je crois qu'il faut il faut s'inscrire vite, pourront aller rendre une visite au LHC et moi ça reste un de mes plus beaux moments dans ma life.
C'était
tech.
Extraordinaire. Ouais.
C'était génial.
On avait l'air d'une bande de gosses.
Et j'ai même fait un selfie avec le boson de Higgs et tout. C'était super.
Ah ouais, vous faites des trucs vous faites des trucs dans votre coin et on n'est même pas invité, mais c'est pas possible.
Bon, après, si vous voulez aller au sud, vous avez le Riviera Dev. Du 15 au 17 mai, une partie des cascodeurs y seront. Voilà, c'est à Nice. En plus, au mois de mai, il fera beau. Il y a les Handcraft les 16 et 17 mai. Il y a nos amis du Mix IT à Lyon qui font une conf le 23 et 24 mai. Donc, je suis super content parce que à chaque fois, on se marche dessus entre Devox France et le Mix IT. Donc, on peut pas aller chez eux. Ils peuvent pas venir chez nous. Et ben là, on pourra.
Ouais, c'est trop bien.
Il y a le Best of Web. Hein, ouais. Ça fait quelques années. Ça, c'est vraiment super. Moi, j'aime bien y aller.
Ouais, c'est sympa aussi.
Le 6 et 7 juin à Paris, c'est plein de confs orientés web. Et les DevFest, eh ben, ils sont pas que au bout du monde, ils sont dans le Schnorr aussi, puisque vous avez le DevFest Lille, le 14 juin, à Lille, donc.
Et le CFP est toujours ouvert.
Le CFP important. Est toujours ouvert, c'est vrai, tu es bien de le dire. Et il y a aussi nos amis luxembourgeois de Vox Days Luxembourg, le 20 et 21 juin. Ah oui, puis il y a Sunitech à Montpellier, c'est vrai, le 28 et 20. Oh là, mais c'est incroyable.
Et donc pour Vox Days et pour Sunitech, donc Vox Days, le CFP vient d'ouvrir, Sunitech, il est encore ouvert, donc allez-y.
À Montpellier, Sunitech. Donc là, vous voyez que entre maintenant et le mois de juin, eh ben vous avez plein d'occasions partout en France pour aller écouter des confs, taper du code et philosopher autour de notre métier. Bah, that's it.
Eh ben voilà. T'as vu, j'ai fait des efforts, j'ai pas été trop bavarde.
Mais bien sûr, on en est que à 1h38. Bah tout à fait. Mais ça, c'est de la faute d'Arnaud, hein. Vraiment. Arnaud, t'es insupportable.
J'ai tellement parlé dans cet épisode, je vous ai tellement, mais c'est ça. Mais je veux pas vous partager la perceuse qui effectivement m'assassine chaque jour.
Ouais, c'est vraiment un coup de pas de bol.
Bon, mesdames et messieurs, on se fait la bise.
Ouais, un gros bisou à tout le monde.
Bisous, bisous.
À bientôt.
Au revoir à tous.
À ciao.
Ciao. Bye.
Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthème.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.